Ok, alors je suis désolé par avance, Corinne, je voulais te soumettre le texte et donc il y a peut-être des grosses boulettes dedans, donc tu n'hésites pas à corriger. On voulait te remercier pour avoir accepté cette invitation et apporter quelques précisions parce que, voilà, en tant que collectif Labo en Transition, on avait décidé, hein, c'est un peu le thème de ces séminaires, c'est d'ouvrir le champ, les champs des interventions et des intervenants au-delà de nos sujets habituels. Donc aujourd'hui, on fait un grand pas de côté avec ta venue. Puisqu'on invite une personnalité qui n'est pas directement issue du monde académique, encore que, vu que ça aurait pu être le cas, vu que tu avais commencé par une formation en école de supérieure de commerce à Rennes et que tu as enchaîné par un doctorat. Voilà, au-delà des sujets que tu abordes, ce qui nous a particulièrement intéressé pour ta venue, c'est le parcours, puisque tu as d'abord été consultant pour des grandes entreprises du CAC 40. Avant de tout plaquer, je crois que c'était dans les années 2000, 2006, j'ai cru dire, pour t'engager en politique. Donc, tu as ainsi été secrétaire du parti de gauche, puis élu en région Rhône-Alpes, donc c'était sa dénomination d'alors, puisque tu as quitté ce rôle en 2021, 1900, nous avons changé de siècle. Et depuis, tu as, comme tu le dis toi-même, suspendu toute appartenance partidaire. Pour autant, de la politique, tu en fais tous les jours. Ça peut être sous l'angle journalistique, en publiant régulièrement des chroniques dans le journal Reporter, mais aussi par le biais de l'écriture, puisque c'est en tant qu'autrice qu'on t'accueille aujourd'hui, avec des livres qui s'adressent à la fois donc à un très large public, à la fois à un public jeunesse à travers le roman Le Gang des Chevreuils Rusés, mais aussi à travers un essai qui a eu un grand succès de librairie, Plutôt coulé, moi je vais vous montrer, tiens, pour ceux qui. Voilà, Plutôt coulé. En beauté que flotter sans grâce. Je sais pas, là c'est la quatrième édition, donc peut-être plus. Apparemment, il est en cours de traduction et il est même enseigné dans les lycées. Donc c'est plutôt très sympa pour lui. Et c'est donc, tu as aussi une pratique de militante de terrain, puisque les 2 prochains jours, tu seras à Rouennage pour une formation colportage politique avec l'atelier paysan. Voilà. Donc à l'origine, quand on t'a contacté, nous avions évoqué, je cite, parce que c'est Pierre qui avait fait la première suggestion, un séminaire qui aurait pour but de positiver le vocabulaire et la vision de la décroissance ou de la sobriété. Et donc l'idée, c'était que tout doit changer, ou en tout cas que tout va changer, en fait, on peut même le dire, même si on ne le souhaite pas, y compris dans le monde académique. Et donc c'est au travers de cette très très large expérience politique, citoyenne, autrice, militante, on s'est dit que tu couvrais un panel très très large et que ça allait nous aider sur comment envisager un futur très différent, y compris professionnellement, sans forcément le dépeindre tout en noir. Et c'est de cela qu'on souhaite discuter avec toi aujourd'hui. Donc on part pour à peu près 30 minutes de présentation et un grand temps de questions-réponses. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous de l'invitation. A priori, le micro a l'air de bien fonctionner. Ouais. Merci à vous de l'invitation. Alors, effectivement, on aurait même pu rajouter la partie artistique parce que j'ai aussi eu une galerie d'art contemporain au tout début des années 2000 dans ce parcours, effectivement assez varié. Par contre, ce que je ne suis pas, c'est effectivement une scientifique. Ou une académique, même si effectivement j'ai fait un PhD, donc une thèse de doctorat britannique, il y a maintenant quelques années. Donc c'est vraiment aujourd'hui plus au titre effectivement de toutes ces casquettes, et puis en tant que à la fois autrice et militante que je suis là et que je vais m'adresser à vous. Il m'a semblé que, enfin voilà, j'avais pas très envie de faire justement une conférence d'universitaire trop longue sur le sujet pour qu'on ait vraiment un vrai temps d'échange après, parce qu'il me semble que là, pour le coup, c'est d'une conversation sérieuse dont on a besoin. Et donc, juste pour introduire cette conversation, on va dire que c'est plutôt une introduction. Moi, je suis repartie effectivement du titre qu'on avait donné à cette rencontre, hein, qui était Autonomie et sobriété, comment rendre la nécessité désirable? Comment rendre la nécessité désirable? D'abord, la première chose, c'est que vous avez déjà eu différentes interventions, notamment une conférence d'Aurélien Barraud. Donc, j'ai pris le parti de ne pas revenir sur le constat de cette nécessité, de ces mutations en cours qui font qu'on commence tous à prendre conscience, en tout cas, que la société change. Qu'elle est bouleversée par tout un tas d'éléments, dont seulement certains sur lesquels nous avons prise, certains sur lesquels nous n'avons pas ou plus prise, et que donc, qu'on le veuille ou non, nous allons vers des changements importants, et notamment vers des croissances, ou en tout cas des pénuries, ou des déplétions d'un certain nombre de ressources, de matières premières, d'énergie fossile, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir là en termes de constat. Donc je pars de ça, qui peut être considéré comme un constat objectif et lucide, ou comme un parti pris, mais en tout cas c'est mon point de départ. Et il se trouve que tout récemment, il y a quelques jours, je discutais avec deux journalistes de la question de l'intermittence énergétique. C'est-à-dire, on se disait, voilà, concrètement, en fait, à quoi ça ressemblerait de vivre dans une société entièrement basée sur 100% d'énergie renouvelable, comme le proposent certains scénarios de l'ADEME, de Negawatt et de différents cabinets qui réfléchissent à ces questions d'énergie. Et si on se posait cette question, c'est aussi parce que, on ne peut pas complètement s'absoudre de l'actualité et qu'on est quand même dans un contexte un peu particulier avec la guerre en Ukraine et le constat qui commence à apparaître de manière très distincte aujourd'hui que malgré la guerre en Ukraine, les affaires de Total en tant que grand énergéticien continuent en Russie. Que tout le monde commence à faire le constat de la dépendance, entre autres matières, au gaz russe, et que malgré ça, en fait, on entend assez peu parler, alors qu'on est censé être aussi dans une période de présidentielle et donc d'intenses débats politiques, on entend finalement assez peu parler, sans aller jusqu'à la décroissance, mais ne serait-ce que d'économie d'énergie, de sobriété, pour justement lutter contre cette dépendance. Alors pourquoi entend-on si peu parler d'économie d'énergie, de sobriété, de décroissance et de toutes ces choses qui vont nous occuper ce matin? Sans doute pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas des termes très sexy, ce n'est pas des termes qui font très envie, c'est des termes qui renvoient plutôt à tout un imaginaire de privation, d'austérité, voire de précarité. Et il me semble que ça pose précisément cette question de se dire, voilà, dans un contexte où on sait qu'on a besoin de réaliser ces économies d'énergie, à la fois pour des questions géopolitiques, mais aussi pour des questions climatiques et de moindre dépendance, notamment aux énergies fossiles, mais on pourra parler du nucléaire ensuite si vous le souhaitez. En tout cas, dans ce contexte-là, comment fait-on pour rendre la question de la sobriété incontournable, et comment le fait-on sans se montrer indécent par rapport à toutes celles et tous ceux qui subissent déjà les pénuries de plein fouet. Parce qu'évidemment, on intervient aussi dans un contexte où les premiers à subir la hausse du prix des carburants sont ceux-là même en grande partie qui ont manifesté pendant le mouvement des Gilets jaunes, les catégories les plus précaires, les plus dépendantes d'un véhicule à moteur pour se déplacer, etc. Et de fait, cette intermittence énergétique dont je parlais au début, elle est en réalité déjà là, une réalité pour beaucoup de personnes. Je pense que c'est une évidence, mais j'aime bien la rappeler, c'est qu'on a l'impression, nous, aujourd'hui, là où nous vivons, qu'il est tout naturel et très simple d'avoir de l'électricité et de la lumière dès qu'on actionne un interrupteur, d'avoir de l'eau quand on ouvre le robinet, de pouvoir régler le radiateur d'un simple tour de main. En réalité, tout ça est aujourd'hui un privilège absolument exorbitant si on veut bien considérer ce qui se passe ailleurs et si on veut bien considérer ce que ça veut dire aussi en termes de factures climatiques et environnementales au sens plus large du terme. Personnellement, pour avoir passé beaucoup de mes étés quand j'étais gamine et adolescente en Kabylie, en Algérie, et avoir connu les coupures d'eau et d'électricité très régulières, alors quand vous êtes gamine et que c'est pendant les vacances d'été, il y a un caractère d'insouciance à ça et ça laisse de très jolis souvenirs de douches bricolées qu'on prend dehors sous un figuier. Mais quand vous êtes adulte et que vous retournez dans des pays qui subissent ces privations-là, comme ça a été mon cas à 3 reprises récemment pour aller en Syrie, au nord de la Syrie, où de fait, voilà, on est dans un contexte non seulement de conflits armés qui durent, mais aussi de coupures d'électricité et de difficultés d'accès à l'eau, et notamment à l'eau potable. Le caractère d'insouciance de l'enfance étant parti, vous mesurez davantage la détresse et la difficulté de cette intermittence qui n'est pas choisie, mais subie. Et plus près de nous, je rappelle juste qu'en France, on estime qu'une personne sur 5 souffre du froid l'hiver, ce qu'on appelle la précarité énergétique, vous le savez. Et dans les temps qui viennent, entre, je le disais tout à l'heure, entre la guerre, la raréfaction des ressources, le chaos climatique, on a mille et une raisons d'imaginer que la situation ne va pas vers du mieux et qu'on va de plus en plus, toutes et tous, avoir à vivre cette intermittence énergétique. La question qui se pose, si on veut essayer de considérer les choses sous un angle qui ne soit pas uniquement l'angle de la noirceur et des temps sombres qui viennent, c'est de se poser la question de manière un peu ouverte sur essayer d'imaginer quel sera l'impact de cette intermittence sur notre travail, nos activités, sur notre alimentation, sur la manière aussi dont nous établissons nos priorités, en se souvenant que finalement, le confort moderne dont nous jouissons aujourd'hui, en réalité, est assez récent. Et qu'en quelques décennies, ce confort moderne a tout bonnement métamorphosé nos modes de vie. Alors, il a certes relégué énormément de souffrances. Et moi, je vis dans la Drôme, dans le Diois. J'ai beaucoup fréquenté les Alpes aussi et les populations qui y vivent. Et les souvenirs du début du XXe siècle en montagne sont encore vivaces. On parle là d'une vraie grande misère dans des foyers où l'arrivée de l'électricité et de ce qu'on appelle le confort moderne n'a pas été du luxe et a véritablement amélioré les conditions matérielles d'existence. Donc il ne s'agit évidemment pas de nier ça. Mais il s'agit de regarder aussi en face que ce confort moderne, il a aussi, en parallèle, créé de nouvelles vulnérabilités. Et que le capitalisme et la technologie qui l'accompagnent nous ont, pour une très large part, fait oublier à quel point nous étions dépendants des cycles naturels. On sait que l'exode rural a projeté énormément de populations en espaces urbains, avec une déconnexion totale de ces écosystèmes, mais aussi tout simplement du temps qu'il fait, du rythme des saisons. C'est une tautologie de le dire, mais il faut le répéter pour vraiment se laisser percuter par ça et en prendre conscience, et prendre conscience qu'une grande partie aujourd'hui des populations qui vivent en ville ou en périphérie de ville, en tout cas dans des espaces urbains et périurbains, n'appréhendent plus en fait la source de leur subsistance, n'appréhendent plus leur interdépendance, leur dépendance à ces cycles naturels et à ces écosystèmes, et qu'en plus, le fait de vivre entouré de béton ne donne pas grand-chose à défendre. C'est quelque chose dont je parle souvent, c'est que quand vous êtes entouré de tours, de parkings et de centres commerciaux, qu'est-ce que ça vous donne à défendre, en fait, en termes de militantisme, au sens très large du terme, en termes de lutte collective pour justement défendre un milieu, défendre un habitat, défendre un territoire auquel on se sentirait appartenir. Donc il y a là une question, me semble-t-il, que nous pose, alors je suis partie de l'intermittence énergétique, mais on pourrait prendre un autre point de départ. On en discutait là tout à l'heure en prenant un café, je viens de terminer une courte histoire pour un magazine jeunesse qui est destiné aux petites filles de 8 à 12 ans. ils m'ont commandé une histoire, j'avais carte blanche et j'ai écrit une histoire de panne d'électricité. En imaginant, voilà, une journée sans électricité d'une petite fille qui a une dizaine d'années. Et puis la journée commence, la gamine, elle se fait réveiller par le soleil, alors que d'habitude, quand son réveil sonne, il fait nuit. Et elle se rend compte qu'aucun des radios réveils de la maison n'a fonctionné. Donc tout le monde est en retard. Quand ils arrivent dans la cuisine, rien ne fonctionne. On ne peut pas se faire de toast, on ne peut pas se faire de chocolat chaud, on ne peut pas se faire de café. Il n'y a pas de radio, il n'y a plus de réseau téléphonique, et ainsi de suite. Et toute la journée se passe de cette manière. Et évidemment, mon propos était aussi de montrer que quand tout ça s'arrête, on redécouvre d'autres choses. On redécouvre le plaisir de faire un feu de cheminée, on redécouvre les étoiles la nuit parce qu'il n'y a plus de pollution lumineuse, on redécouvre le plaisir des jeux de société, etc. etc. Et ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est de voir, d'essayer d'imaginer en fait comment tous ces bouleversements pourraient aussi, en plus de tout le lot de chaos que c'est la risque de charrier, et sans le minimiser, mais comment cela pourrait aussi réaiguiser nos sens, réaiguiser peut-être aussi notre rapport au temps, et par là même nos affects politiques, au sens là aussi très large du terme. Chaque fois que j'utilise le mot politique, il est assez dégagé des enjeux électoraux, pour le dire très clairement. Donc, cette question de s'attacher au lieu où on vit, cette question aussi de l'exposition à la beauté, dans l'essai dont il a été fait mention tout à l'heure, là que j'ai écrit « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », je parle notamment du lien organique qui existe entre l'exposition à la beauté et sa puissance d'émancipation et de dignité. Et je cite deux auteurs, William Morris, qui était... militant engagé, mais qui était aussi artisan d'art, qui faisait notamment des très belles tapisseries avec des magnifiques motifs floraux. Et William Morris, il disait, lui, qu'il voulait, je cite, « étendre le sens du mot art jusqu'à englober la configuration de tous les aspects extérieurs de notre vie, persuadé qu'il n'existe rien de ce qui participe à notre environnement qui ne soit beau ou laid, qui ne nous ennoblisse ou nous avilisse. » Et à partir de cette citation, je développais dans ce texte l'importance en fait de cette exposition à la beauté et du rapport à l'esthétique dans la politique. Ce qui est un propos qui est un peu décalé en fait par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui du débat politique, qui a plutôt tendance à s'affranchir de la beauté et de la poésie en considérant que ce seraient des sujets périphériques, annexes, de détails. En tout cas qui probablement ne font pas assez sérieux pour tous ces messieurs. Et je crois de plus en plus, au fil des années, que c'est une faute politique en réalité, et que c'est une véritable erreur, et que c'est probablement une des raisons pour lesquelles nous manquons aujourd'hui à ce point d'élan dans les différents projets politiques qui sont présentés. Et je crois que voilà, on a besoin de mêler davantage la création artistique, le souci environnemental et la critique sociale, et que c'est aussi par ce biais-là, justement, qu'on parviendra à rendre l'autonomie et la sobriété ou la décroissance, quels que soient les termes qu'on met derrière, qu'on parviendra à les rendre désirables. Parce que rendre la sobriété désirable, ça passe par des combats, des luttes, des mouvements collectifs. Ça passe par le fait de construire des alternatives qui préfigurent d'un autre monde possible et de montrer justement qu'on peut vivre autrement avec moins de superflu et moins notamment de dépenses énergétiques. Mais ça passe aussi, et c'est vraiment toujours ces trois leviers de la transformation sociale qu'on retrouve pour tous les sujets, donc les luttes, les alternatives, et le troisième, c'est la question de la bataille culturelle. C'est-à-dire comment on fait effectivement pour rendre des idées davantage acceptables, voire désirables au niveau du grand public. Et ça passe par le fait, pour moi, de réenchanter la politique. On parle beaucoup de réenchanter le monde, assez peu de réenchanter la politique, et pourtant c'est important. Alors j'ai bien conscience que quand je dis ça, et selon le public face à qui je suis, mais je pense que ça va être le cas aujourd'hui, il y a un côté romantique voilà, qui fait un peu bébête, quoi, parfois, dans l'esprit de certains. Je voudrais juste rappeler, en fait, qu'il y a un courant qui existe et qui a existé depuis très longtemps, qui s'appelle le romantisme révolutionnaire, dont parlent des gens très sérieux. Et je voudrais notamment citer Michael Lowy, qui fait partie de ces gens très sérieux, qui décrit le romantisme révolutionnaire comme, je cite, « une tentative désespérée de réenchantement du monde ». Et il écrit « Si le romantisme s'affirme comme une forme de sensibilité profondément empreinte de nostalgie, ce n'est pas pour autant qu'il refuse en bloc la modernité. D'une certaine façon, on peut même le considérer comme une forme d'autocritique culturelle de la modernité. » Et j'aime bien cette définition parce qu'elle permet aussi assez rapidement de battre en brèche l'idée selon laquelle la sobriété ou la décroissance serait le souhait d'un retour à des époques antérieures, le fameux retour à la bougie, etc. Je veux croire encore à une forme d'intelligence collective de la part des êtres humains qui leur permettrait d'inventer une forme de sobriété qui ne soit pas un retour à Néandertal. Je crois que nous avons suffisamment aujourd'hui d'expériences collectives, de savoir-faire, de connaissances scientifiques pour faire la part des choses et éviter en tout cas cet écueil. Donc, changement culturel, je disais, donc une des réponses à cette question de comment rendre l'autonomie et la sobriété désirables, la boutade consisterait à dire, on le disait, on l'évoquait ça tout à l'heure, c'était, on ne savait plus quelle était l'origine, si c'était un sketch de Coluche ou autre chose, mais c'était cette formule de dire « dites-moi de quoi vous avez besoin et je vous apprendrai à vous en passer ». Moi, je vous avoue que de temps en temps, j'aimerais bien en fait, que les politiques s'emparent davantage de cette phrase, mais en changeant un petit peu de personne à qui ils s'adressent, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que c'est toujours les mêmes en fait, à qui s'adresse le « je vous apprendrai à vous en passer », alors qu'on sait que la majorité des efforts résident plutôt du côté des grandes entreprises et des pouvoirs publics que du côté des citoyens et notamment des plus précaires d'entre eux. Une autre manière de répondre à ça, que j'aime bien aussi, c'est de répondre en cessant de vivre avec son temps. Il y a aussi cette formule toute faite, il faut vivre avec son temps, quoi. Et en fait, je crois qu'il faut que nous cessions de vivre avec notre temps. Et qu'il faut cesser, en fait, de trouver cool de se balader avec un quad au milieu des vignes, dans un parc naturel régional, comme c'est le cas chez moi, par exemple. Et qu'il faut qu'il y ait un certain nombre, comme ça, de standards, notamment de standards de la coolitude, qui se modifient, en fait, en profondeur. Je crois que ça a commencé, mais ça commence de manière très lente, très marginale, à bas bruit, et qu'on a besoin de donner une caisse de résonance à ces bifurcations culturelles. Il me semble que des pistes sont à trouver du côté des modes de vie ruraux. Alors là encore, je ne dis pas que je suis totalement exempte de nostalgie et de romantisme révolutionnaire, mais en fait, je suis quand même assez surprise souvent d'entendre des personnes très intelligentes qui semble redécouvrir qu'on peut trouver des mécanismes d'entraide entre voisins, qu'on peut se prêter du matériel, qu'on n'est pas obligé d'avoir tous une tronçonneuse ou d'autres machines chez soi. Parce qu'en fait, moi, je vis dans un petit village d'une centaine d'habitants adossé au Vercors, et en fait, dans ce village, ces mécanismes-là n'ont jamais cessé. De la même manière que n'ont jamais cessé le fait de se refiler des semis, des plants, de se filer un coup de main quand il y a des travaux, que le jour où c'est la récolte de la lavande et c'est ce jour-là et pas le lendemain, et ben ceux qui sont graphistes et néo-ruraux, et ben ils arrêtent leur travail de graphiste et ils vont filer la main pour récolter la lavande. Voilà, tous ces mécanismes-là, en fait, ils n'ont jamais cessé dans plein de coins. Et que peut-être que ça vaudrait le coup de s'en souvenir et de s'en inspirer, parce que en termes de mécanismes d'entraide, mais aussi en termes de sobriété et en matière d'autonomie à la fois politique et matérielle, je pense qu'on a là vraiment des pistes intéressantes à aller regarder. Donc tout ça passe évidemment par le fait de questionner nos besoins, de réduire et de simplifier nos vies, de choisir ses propres dépendances, hein, comme j'aime souvent à le dire, qui est une des définitions de l'autonomie politique, de comprendre quelles sont nos sources de subsistance et d'apprendre à les prendre en charge collectivement. Je vais aller vers la conclusion de cette introduction et après on pourra discuter soit de ce que j'ai dit, soit de ce que j'ai pas dit, notamment sur la question justement du militantisme, de l'organisation collective, mais aussi des pouvoirs et des limites de la fiction et des nouveaux récits. Donc on pourra aller vers tous ces sujets-là. Juste pour conclure cette première partie, je voudrais dire que au moment là où je vous parle et au moment où on en est, moi je suis une observatrice et une actrice très attentive de ces questions-là depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Je ne sais sincèrement pas en fait si on va avoir le luxe encore de choisir entre pénurie et sobriété, c'est-à-dire de choisir entre quelque chose qui va nous être imposé d'une manière ou d'une autre, soit par des réalités géophysiques, soit par des gouvernements qui auront à un moment donné à prendre des décisions de restriction, et ça peut se faire ça de manière égalitaire ou pas du tout, ou si on a encore la possibilité de bifurquer vers des formes de sobriété choisies, ce qui évidemment serait éminemment préférable. En tout cas, si elle était choisie, s'il y a encore cette possibilité, je veux croire que cette fameuse intermittence dont je parlais au début pourrait aussi faire jaillir de nouvelles formes d'attention au monde qui nous entoure, d'attention aux personnes qui nous entourent, de nouvelles formes d'entraide, de relocaliser, reterritorialiser nos activités, que ce soit à la campagne ou en ville, et aussi les diversifier, et que tout ça permettrait peut-être de redessiner à la fois la cartographie de nos besoins, mais aussi la cartographie de nos joies et de nos envies. Et j'ai l'impression de plus en plus, enfin là, il faut dire que on a le droit légitimement hein, quand même d'être un peu essoufflé. Après les deux dernières années là qu'on vient de passer et tout ce qui se passe encore aujourd'hui, mais en tout cas voilà, ces joies, ces envies, je crois qu'on a vraiment besoin là de les réaffûter et de retrouver de l'élan et d'aller chercher dans les interstices de tout ce qui nous tombe sur la tête là quelques raisons de se métamorphoser et de retrouver un petit peu de joie et d'envie et d'élan. Voilà, en tout cas, quelques réflexions, comme je vous le disais, hein, ça ne se veut pas un propos de savoir universitaire ou académique, mais plutôt de l'ordre d'une introduction à une conversation qu'on peut avoir maintenant.
On ouvre la session des questions. Et on est vachement bien organisé aujourd'hui, on a deux micros, un de chaque côté.
Bien, bonjour. Alors moi, je suis Edouard, je me présente, je suis ingénieur dans ce laboratoire en instrumentation. Évidemment, ton intervention aurait mérité qu'on prenne presque des notes parce qu'il y a beaucoup à dire. La première chose que j'aurais à dire, c'est que personnellement, je pense que effectivement, ce sera plus la contrainte qui nous obligera à retourner vers une sobriété. Je crois qu'on est trop formaté dans l'utilisation du progrès et surtout dans l'abus du progrès, en fait. C'est à mon sens, le grand problème, c'est l'abus des ressources qu'on a. Et une chose que tu as dite aussi, c'est qu'il faudrait arrêter de vivre avec son temps. En fait, ça me rappelle une phrase que j'avais lue dans un livre, qui disait « Un peu de science vous éloigne de Dieu, beaucoup vous en rapproche ». Dans la même idée, je dirais que si on se penche un petit peu sur la question, on a envie de se dire « Effectivement, il faut arrêter de vivre avec son temps ». Si on va beaucoup plus en profondeur, j'ai envie de dire « Il faut vivre vraiment plus avec son temps ». Ça veut dire que il faut prendre conscience, évidemment, des limites qu'on a à utiliser les ressources qui existent. Et donc, tout évident, c'est ce qui nous permettrait d'éviter tous les abus, justement, de ces ressources. Donc, vivre à fond dans son temps, c'est prendre conscience qu'effectivement, eh bien, y a des freins à se mettre, des limites à se donner. Bon, j'aurais plein de choses à dire, mais je vais laisser la parole aux autres.
Merci.
Je réagis tout de suite à ça. Aurélien Barou, lors de la conférence qu'il a faite ici, a dit un truc qui me paraît très très important. C'est que, en fait, même si on trouvait une source d'énergie inépuisable, ça ne réglerait pas la question. Et lui parlait notamment des usages de l'énergie. C'est-à-dire que la question est que, en fait, toute cette énergie est utilisée à détruire. Enfin, pardon pour lui, hein, il développait un peu plus que ça et l'agitait à la hache. Mais en gros, c'était ça le propos. Et pour moi, ça s'applique aussi à cette question des limites et de cesser de vivre avec son temps ou au contraire de vivre réellement avec son temps. Dans la petite histoire pour les enfants là, dont je vous parlais tout à l'heure sur la panne d'électricité, je mets en scène un voisin qui, le matin, est en train de trépigner devant la porte de son garage en suppliant Alexa de bien vouloir ouvrir la porte de son garage. Et qui est voilà, un voisin très imbu de lui-même, ravi de tout son équipement en domotique et qui se vante d'être connecté et tout. Moi, je dois dire que vraiment ça, par exemple, le fait de se dire qu'on en est arrivé à un point, en fait, où on va installer des antennes 5G et déployer des trésors de technologie pour ne pas avoir à ouvrir la porte de son frigo pour savoir ce qu'il faut acheter, ou pour ne pas avoir à se lever pour allumer la lumière, ou même ne pas avoir à appuyer sur le bouton de la télécommande pour changer de chaîne, me paraît proprement ahurissant. Ahurissant. Et ça, pour moi, c'est même pas une question ni sociale, ni environnementale, ni climatique, ni liée à des économies d'énergie. En fait, c'est juste une question, à un moment donné, de dignité humaine, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, on se demande parfois si on a encore des bras, des pieds, un cerveau, ou si on est juste des ectoplasmes qui n'ont plus qu'une bouche et une langue pour formuler des ordres à une intelligence artificielle, quoi. Donc oui, je pense que là, on est confronté à des vrais choix civilisationnels, en fait. Et bon, voilà, je voulais juste rajouter ça. Et quant à la nécessité de la contrainte, pour moi, ce serait... une faillite totale d'en arriver là, mais quand je vois qu'on n'est même pas capable de, ne serait-ce que de débattre de la possibilité de réduire la vitesse à 110 km/h sur autoroute, je me dis qu'effectivement on est encore vraiment très 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 loin de ce qu'il conviendrait de mettre en œuvre sans qu'il y ait de dispositif de coercition, et je trouve ça franchement totalement terrifiant.
Bonjour, merci beaucoup. Najma Bendiab, je suis enseignante-chercheuse à l'Université Grenoble-Alpes et je fais ma recherche au sein de l'Institut NEAL ici. C'était très intéressant, merci beaucoup pour les réflexions. J'ai évidemment beaucoup de questions, mais je vais démarrer par déjà une première. Le passage, alors, je ne sais pas si tu as un contexte, moi je suis née, j'ai grandi en Algérie. Donc l'intermittence, je sais exactement ce que ça veut dire. C'est pas pour autant que... Bon, on s'en accommode, en fait. On sait pas que quand on y habite, on sait pas qu'ailleurs, c'est pas comme ça. Enfin, surtout à l'époque où moi, j'ai grandi. Donc aujourd'hui, on le sait. Et du coup, ça crée plus de frustration qu'avant. Et une chose dont tu as parlé, mais que tu as très peu évoquée, c'est les inégalités énergétiques, etc., sur lesquelles ils existent ici, mais l'impact que ça a dans les autres pays aussi. Cette modernité et ces choix qui sont faits par l'Occident. Y compris, je m'y inclus, hein, je vis ici depuis suffisamment longtemps pour dire que je fais la même chose que tout le monde. Et du coup, j'ai une question peut-être... je ne me suis pas penchée sur la question, mais ton discours a soulevé cette question en moi. C'est le passage au 100% d'énergie renouvelable. C'est évidemment un objectif... extrêmement important, peut-être le plus intéressant et le plus défiant de notre temps. Ce que je ne vois pas, en tout cas, peut-être parce que je n'ai pas assez réfléchi à la question, mais ce que je ne vois pas, c'est comment dans le temps, dans l'intermédiaire, gérer cette intermittence dont tu parles. C'est-à-dire quelles sont les solutions politiques, les solutions techniques, si tu en connais, les solutions existantes pour aller vers ça. Il y a une autre chose aussi que tes réflexions ont soulevé pour moi et qui est en fait quelque chose que j'ai senti, enfin, comment dire, que je remarque sur le terrain de manière régulière, puisque je vais régulièrement dans différents endroits pour donner envie. C'est parti par donner envie aux filles de faire de la science. Voilà. Et je suis arrivée dans certains endroits où les gens n'avaient même pas conscience de certains enjeux. Voilà. Et du coup, ça m'a donné l'envie aussi de discuter plus avec ces gens-là. Et je me suis rendu compte que on était dans des déserts d'éducation populaire. C'est-à-dire, cette perte qu'il y a eu au cours des années en France de l'existence de la politique populaire, c'est-à-dire pas la politique des gouvernements ou la politique de l'extérieur, mais le fait d'avoir un tissu social qui se pose des questions et qui fait penser les gens, et pas juste l'élite du haut qui réfléchit dans son coin et qui pond des rapports et qui etc. ou qui fait de l'académique comme je peux en faire. Enfin voilà. Donc il y a vraiment voilà. Donc j'ai ces deux questions-là qui sont pour moi liées et extrêmement importantes sur le sujet que tu poses. Et une dernière, alors là c'est plutôt un commentaire, mais que j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus, c'est l'idée du romantisme révolutionnaire. C'est très séduisant. néanmoins, on a vu au moment de l'apparition de l'ère industrielle au 19e siècle, aussi cette idée de romantisme, etc., qui dit on va perdre la nature, on va perdre le lien à la nature. On a effectivement perdu ce lien, on a effectivement été peut-être trop loin. Ceci dit, ça ne nous a pas empêché de continuer. Donc, et c'est là où j'ai un vrai souci, moi, parce que je suis assez... Je crois encore en l'humanité en me disant on va y arriver, et puis il y a des jours où quand j'écoute Edouard l'a dit, où j'ai l'impression que finalement il n'y a que la contrainte. Donc entre ces deux extrêmes, l'optimisme ébahi, bon je ne sais pas comment dire, mais et la contrainte, j'ai du mal à voir comment on peut y arriver de manière civilisée. Voilà. Et la question du rapport aux inégalités mondiales aussi, parce que étant des deux côtés de la Méditerranée, je suis désolée de le dire, mais je vais le dire, côté Afrique et en tout cas de ce que je connais, la faute est ici. Donc on leur demande de faire des efforts, mais en fait le problème est venu parce qu'on a fait des choses ici. Et donc ils se disent, nous on est en train de progresser et d'un coup il faudrait qu'on arrête. Voilà. J'arrêterai là parce que je parle beaucoup. Merci Laetitia. Voilà.
Bon, ça va. Enfin, il y a évidemment énormément de choses dans ce que tu viens de dire, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, parce que tout tient pas en fait à l'oral dans ce type de rencontre, et il y a beaucoup de choses justement que j'ai développées dans mon livre, notamment sur cette question du cesser de nuire en fait. Et la manière dont nos modes de vie et nos choix ici causent du tort, en fait, tout au long de la chaîne, ailleurs, mais ici aussi d'ailleurs, mais voilà, les impacts en fait globaux et systémiques qu'ont ces choix de vie, tout en rappelant quand même qu'il y a aussi plein de personnes qui, dans le bloc occidental, entre guillemets, n'ont pas le choix, en fait. Ont des conditions matérielles d'existence qui font que, en fait, les choix et les marges de manœuvre sur leur consommation, sur leur mode de vie sont très faibles. Et c'est pour ça que je reviens systématiquement, parce que on a toujours tendance, même dans nos discussions, à revenir sur les particuliers, les citoyens, les individus et ce qu'il faudrait faire, et à laisser un peu de côté la partie beaucoup moins marginal en fait de ce qu'il faudrait faire au niveau des grandes entreprises, des grandes industries, des grands secteurs industriels, alors que c'est là en fait que les réserves et les marges de manœuvre sont les plus importantes, et où c'est là qu'il y a aussi le plus de moyens qui pourraient être mobilisés, notamment en termes de dividendes, de profits, etc., qui pourraient être réinvestis justement dans toutes ces bifurcations nécessaires. Mais je rejoins, c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée par rapport à ton témoignage sur l'Algérie, et le fait que la frustration que ça peut générer une fois qu'on sait que, en fait, ailleurs, d'autres vivent autrement. Et à l'inverse, moi, je sais qu'à chacun de mes retours de Syrie, j'ai vraiment au minimum une semaine de réaccoutumance à me refaire en fait à l'indécence de la facilité avec laquelle on vit ici, quoi, qui est toujours un moment d'atterrissage assez assez brutal. Voilà, juste par rapport à ça, il y a évidemment cet impact sur l'ailleurs. Sur le 100% énergie renouvelable, là aussi, ça nécessiterait beaucoup de développement et en plus des développements de la part de quelqu'un de plus calé en moi sur les aspects scientifiques. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que de toute manière, ce 100% énergie renouvelable ne peut pas être envisagé autrement qu'avec une réduction en termes de consommation d'énergie qui est pour nous aujourd'hui totalement inimaginable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne remplacera pas le pétrole, le charbon, le gaz et le nucléaire par des énergies renouvelables en continuant à vivre comme nous vivons aujourd'hui, ni même en se serrant la ceinture par rapport à nos modes de vie actuels. C'est un bouleversement majeur, de fond en comble, qui, à mon avis, est techniquement à notre portée, mais qui, culturellement, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ne l'est pas du tout. Effectivement. Alors après, sur les aspects techniques, etc., je sais qu'il y a quand même, mais là vous y connaissez sans doute mieux que moi, mais il y a pas mal de recherches en cours, justement sur la question de l'intermittence pour permettre le stockage de ces flux d'énergie. Après, moi, enfin, j'ai tendance à considérer d'un point de vue politique et non technique que quand on a, enfin voilà, je veux dire, on est dans un pays qui a réussi à inverser totalement des chaînes de production industrielle en temps de guerre au siècle dernier, qui a réussi à déployer à très grande envergure l'industrie nucléaire du fait d'une décision politique au départ. Donc je pense que s'il y avait une vraie volonté, un vrai élan à la fois politique et populaire d'aller vers le 100% ENR, on serait trouver le moyen de le faire, j'en suis absolument persuadée. Ce qui nous manque, c'est l'envie, en fait, l'élan, mais on pourrait en faire un pari national, puisque tout le monde cherche des grands étendards, ben celui-là pourrait en être un. Et ce serait un magnifique défi, magnifique, passionnant, qui mobiliserait plein de cerveaux, d'astuces, où tout le monde, en plus, pourrait contribuer. À la fois des experts brillants et puis des plus précaires qui, eux, ont l'habitude de se débrouiller avec le système D. Enfin, je veux dire, on pourrait vraiment faire quelque chose de très, très beau dans ce pays autour de cette idée. La dernière chose par rapport à la question de l'éducation, de l'éducation populaire, de la transmission, moi, c'est aussi quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'il n'y a plus du tout de transmission, en fait, d'un certain nombre de savoir-faire populaire, traditionnel, ni au niveau de l'école, ni au niveau tout simplement de la proximité, des affinités, du voisinage, de la famille. Et c'est vrai que par rapport à ça, je me permets d'insister, mais la question du numérique nous dépouille encore davantage de beaucoup de savoir. Et je crains que ça n'aille très très vite, en fait, qu'il y ait beaucoup de choses qu'on ne sache plus faire. Si vous prenez le simple fait de pouvoir d'être en capacité d'aller farfouiller dans un moteur de voiture, aujourd'hui on n'en a plus la possibilité et ce savoir-là est en train de se perdre. Et dans le milieu agricole, c'est la même chose. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels on est effectivement en train de perdre ce savoir. Voilà, je m'arrête là.
Bonjour et merci aussi beaucoup pour votre présentation. J'aurais une question un peu à l'activiste. Est-ce que vous connaissez déjà des exemples de sociétés qui ont délibérément choisi la sobriété plutôt que l'ont subi? Et parce que bon, notre expérience un peu de terrain, quand on essaye de bouger à travers notre collectif, étendre le cercle déjà des militants et bouger les institutions, on a des réticences vraiment très profondément, très fortes, très ancrées. Alors en dehors du sein de la recherche, c'est bien sûr les imaginaires consuméristes du pavillon, tout ça, mais on a la version équivalente dans le monde de la recherche. Donc comment on trouve du renfort?
Alors des renforts, effectivement, on peut en trouver. ça fourmille pas d'exemples hein, quand même sur des choix délibérés de sobriété, soyons très clairs. Par contre, sur à la fois dans le champ de l'éthique, de la philosophie ou de l'anthropologie, on peut quand même trouver des renforts. Alors, on peut en trouver soit du côté de l'anthropologie sociale par des exemples en fait de populations qui ont vécu ou qui vivent, mais de moins en moins au présent, de manière différente, donc avec des pratiques autochtones beaucoup plus intégrées en fait dans leur milieu et avec un lien et un rapport au reste du vivant beaucoup plus lucide et beaucoup plus harmonieux. Il y a notamment tous les travaux de Philippe Descola, de Pierre Carl et puis plus récemment de Nastassia Martin et plein d'autres qui ont étudié ça et qui peuvent donner des pistes sur d'autres manières de vivre. Alors je dis des pistes hein, parce que c'est pas forcément des choses qu'on s'imagine transposer de manière simple et immédiate à nos modes de vie à nous, mais en tout cas je trouve que ça donne des pistes vraiment de réflexion hyper intéressantes. Et puis après, il y a aussi des postures, je disais, plus éthiques ou philosophiques. En Chine, par exemple, il y a la notion du Wu Wei, donc c'est W-U-W-E-I, qui consiste à... Alors, je ne suis pas une spécialiste, donc je vais peut-être un peu écorcher la notion, mais telle que je l'ai comprise, qui consiste à ne pas forcément prendre tout ce qu'il y a à prendre simplement parce que c'est là et qu'on peut prendre, quoi. Et donc à refuser certaines choses, notamment en matière de technologie, simplement parce qu'on anticipe que ça va faire plus de mal que de bien. Et donc cette capacité à refuser ce qui est à portée de main, je crois que c'est vraiment, on revient sur les limites dont on parlait tout à l'heure, et c'est aussi un des concepts sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour mon livre, hein, qui est l'idée du refus de parvenir, qui est une notion qui a plutôt été, depuis le début du XXe siècle, plutôt étudiée dans les milieux libertaires et anarchistes, mais qui gagnerait vraiment à s'étendre. C'est le simple fait de se souvenir que de temps en temps, en fait, on a le droit de ne pas prendre ce qui est tendu, que ce soit en matière de carrière professionnelle ou en matière de gadgets publicitaires. Il y a plein de choses en fait qu'on a le droit de ne pas prendre, même si c'est là, même si c'est offert, même si c'est tendu, soit parce qu'on a conscience que ce gadget publicitaire il est fait en plastique dans des ateliers d'Asie du Sud-Est, dans des conditions de travail indécentes, sans droit de se syndiquer, sans droit du travail, et qu'en plus ils sont venus au prix d'un certain nombre de pollutions, et qu'en plus il y a une marque dessus qui va vous transformer en produit publicitaire ambulant, soit dans le cadre des promotions professionnelles, parce que finalement vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver à encadrer une équipe, vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver à faire des heures supplémentaires, vous n'avez pas forcément envie de tout ça en fait. Donc il y a des choses qui peuvent nous aider, que moi en tout cas je considère être des renforts. Et après, chacun de se constituer sa petite galerie de personnages, d'ancêtres, de sources d'inspiration. Mais en tout cas, je pense vraiment que ce qui manque, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas les idées, c'est pas de savoir ce qu'il faut faire, c'est pas le programme politique, c'est même pas le projet politique, c'est l'élan, quoi, vraiment. Et de se donner les moyens de le faire, de le mettre en œuvre, vraiment. Et de sortir de la revendication pour rentrer dans le performatif.
Une question sur quel rôle la science peut ou doit jouer pour cette route vers la sobriété.
Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se font aujourd'hui du côté des sciences et techniques pour élargir un petit peu. Autour de tout ce qu'on appelle le low-tech, par exemple, qui sont pas des choses nouvelles, mais qui reprennent un petit peu de vigueur là face justement à la nécessité et face aussi à ce qui se passe ailleurs justement dans des endroits où les ressources que nous avons n'existent pas et ne sont pas à portée de main. C'est-à-dire que, voilà, je parlais de la Syrie du Nord, où il y a des gros problèmes d'infrastructures et de techniques au niveau de l'eau, par exemple. Je veux dire, aller leur proposer de faire de la coopération avec de l'électronique et de la high-tech n'a aucun sens, en fait. Ce serait installer des choses qui ne fonctionneront jamais, puisqu'il n'y a pas non plus d'électricité. Donc là aussi, il y a plein de choses qui se font et qui s'inventent, qui sont intéressantes. Et puis après, pour rester dans le domaine plus technologique, je pense qu'il y a plein de choses à faire, à découvrir, qui simplifieraient de manière considérable cette bifurcation dont on a besoin, ne serait-ce que pour reprendre l'objectif des 100% d'énergie renouvelable, qu'on ne sait pas faire aujourd'hui sur plein de plans, ou en tout cas sur lesquels on a éventuellement les pistes de travail et de recherche, mais pas forcément les financements qui vont avec, pour que ça puisse se déployer vraiment à très grande échelle. Après, voilà, moi, ça, c'est pas mon domaine, et c'est plutôt peut-être dans la salle que les réponses et les éléments existent.
Là, par exemple, l'Institut NEL, c'est un labo de recherche fondamental, donc c'est quoi ça va dans le bon sens ou...
Mais là-dessus, honnêtement, enfin, c'est pas une pirouette de ma part, mais enfin, c'est vraiment à vous de le dire, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout opposée à la recherche fondamentale, bien au contraire. Ce qui m'intéresserait, en fait, pour être tout à fait clair, hein, il me semble que le problème qu'on a aujourd'hui dans le domaine de la recherche en général, c'est que de plus en plus de pans entiers de la recherche répondent aux besoins formulés par les entreprises qui ont tout intérêt à ce que le système actuel ne change pas, et notamment qu'il n'aille pas vers du low-tech ou du 100% énergie renouvelable ou vers de la sobriété et de l'autonomie matérielle. Donc forcément, ça oriente un certain nombre de travaux. Il me semble qu'on pourrait mobiliser beaucoup d'énergie, de savoir, d'intelligence collective vers d'autres objectifs en matière de recherche appliquée notamment, qui nous seraient aujourd'hui fort utiles.
J'ai envie d'ajouter dans ce que tu dis, effectivement, ça fait beaucoup penser à l'ordinateur quantique aujourd'hui qui est très très mis en avant. Alors est-ce que c'est le moment de le faire ? Ou est-ce que c'est plutôt le moment de passer sur des sujets de recherche qui sont peut-être un peu plus importants pour les temps à venir ?
Moi, je pense qu'il y a des domaines, de toute évidence, dans lesquels on a un réel besoin de technologie et un réel besoin même de technologie de pointe. Je pense au domaine médical, par exemple. Mais si on veut demain pouvoir continuer à avoir recours à ces technologies dans le domaine médical, ça implique qu'on n'ait plus recours à un certain nombre de technologies dans d'autres domaines. Par exemple, je ne sais pas moi, des écrans publicitaires, vidéo, Gare de Lyon à Paris. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des écrans de pub sur des écrans numériques, avec maintenant en plus des dispositifs de caméras et de surveillance équipés d'algorithmes pour prendre en direct les réactions des piétons quand ils passent devant ces écrans? C'est en train d'être installé aujourd'hui pour mieux orienter la publicité et le marketing. Voilà, je pense que c'est, enfin, vraiment, je trouve une fois de plus ça complètement dingue, en fait, que collectivement la société n'interroge pas ce type d'usage pour des ressources dont on sait qu'elles vont soit venir à manquer, soit qu'elles sont en train de détruire les possibilités de vie sur Terre.
Je peux juste dire un petit... on a prévu dans les séminaires CLET cette année d'insérer un séminaire sur les low-tech. Donc Jean-Philippe, tu auras peut-être quelques pistes.
Bonjour, pour revenir sur ce dernier point,
actuellement, donc, il faut faire ce que vous dites, il faut remonter vraiment loin, parce qu'actuellement, c'est tout l'investissement dans les jeux vidéo, par exemple, qui va permettre de développer les techniques pour le médical, parce qu'il y a la recherche en médical, mais après, il faut produire ces produits qui ne sont pas rentables et qui reposent sur des tout ce qui est juteux, entre guillemets, ce qui est plutôt l'industrie du smartphone, du jeu vidéo. Donc, comment faire pour financer ces produits si on ne fait plus les autres par derrière? Enfin, il y a vraiment un changement fondamental à faire, et je ne sais pas si le développement sera aussi dynamique pour la recherche médicale que pour tout ce qui est plus...
Alors, ça nous emmènerait trop loin, mais il y a quand même beaucoup de possibilités, en réalité, aujourd'hui, de récupérer de l'argent et de le réorienter en termes de politique publique, que ce soit en matière notamment de fiscalité. Enfin, je veux dire, c'est toute la question de la répartition des richesses et de ce qu'on en fait, et des poches dans lesquelles cette richesse atterrit. Mais c'est, une fois de plus, enfin, techniquement, sur le papier, en fait, on sait faire. Par contre, après, en termes de volonté de le faire, et puis de possibilité en termes d'acceptabilité politique internationale de le faire, c'est une autre paire de manches. Mais l'argent, il existe, et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. La question, c'est comment il est utilisé, et on parlait tout à l'heure de coercition. La coercition, elle n'est pas obligée de tomber toujours sur les individus et les mauvais citoyens. Elle pourrait aussi s'appliquer au niveau d'un certain nombre de multinationales cotées en bourse, qui font des profits, qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Et cet argent-là, il pourrait aussi être investi par d'autres structures, étatiques ou non d'ailleurs, ou collectives. Donc des circuits de re-répartition, en fait, de l'argent, on peut en inventer d'autres. Par contre... voilà, en termes de la faisabilité qui est questionnée, elle est davantage culturelle que technique, à mon sens.
J'avais une question en ligne de Nicolas qui demande, au-delà de la science et de la connaissance, a-t-on besoin de vivre cette expérience de frugalité auprès d'autres cultures, Algérie, Syrie, etc., pour vraiment prendre conscience et se mettre en mouvement?
Je ne pense pas que... Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes. Moi, je peux juste témoigner du fait que le fait de ne plus habiter en ville m'a vraiment métamorphosée. Et le fait de redécouvrir le rythme des saisons, le fait de d'essayer de vivre justement avec davantage d'autonomie collective, moins d'électronique, moins d'électricité, bah oui, en fait, ça tout d'un coup, ça vient matérialiser des choses, éventuellement des intuitions intellectuelles qu'on a, mais le fait de le vivre, d'avoir l'expérience sensorielle, change, je trouve, vraiment les choses, parce que en fait, faut vraiment, sur toutes ces questions-là, moi j'ai longtemps cru, en fait, que nous étions des êtres rationnels. Et en fait, il y a quand même un moment où, une fois que le cerveau a été nourri, et on a besoin évidemment de toutes ces informations, et notamment de toutes les informations qui nous viennent de la communauté scientifique, mais en fait, ça ne suffit pas. Je crois qu'Aurélien disait ça aussi dans sa conférence, ça ne suffit pas, sinon on ne serait pas là, en fait. Et on a aussi besoin d'aller percuter les sens, quoi. Ça ne suffit pas toujours non plus. Mais en tout cas, ça fait partie de ces nombreuses conditions nécessaires, mais non suffisantes. Après, ça peut s'expérimenter de plein de manières différentes et de manières plus ou moins douloureuses, d'ailleurs. Mais, et puis, ça peut s'expérimenter par l'imaginaire aussi. Enfin, moi, c'est tout le travail que je développe aussi autour de la question de la fiction et de l'imaginaire. Je crois qu'il y a aussi... voilà, c'est aussi des choses, mais tout ça ne peut venir qu'alimenter. Il n'y a pas un truc qui fonctionne, en fait. Même la catastrophe ne fonctionne pas. Je veux dire, parce que des catastrophes, et notamment des catastrophes nucléaires, on en a connu beaucoup, et le nucléaire continue à... Enfin, je veux dire, on a, enfin, les réacteurs n'ont pas tous été arrêtés, loin de là, même au Japon, même en Ukraine. Donc, on voit bien que ça ne suffit pas. Mais ça fait partie des choses voilà, nécessaires mais non suffisantes, je pense.
J'avais plusieurs choses à dire. Oui, la première, c'était de se dire que, bon, effectivement, c'est l'exode rural qu'il y a eu au début, fin 19e, c'était quand même au départ une question de survie, quoi. Il n'y avait plus de moyens de vivre à la campagne. Donc, ça a été un peu obligatoire, cet exode. Et c'est sûr que c'est toujours plus agréable de vivre à la campagne qu'à la ville. En même temps, vivre à la ville, il y a quand même des avantages, en tout cas écologiques. Lorsqu'on chauffe un bâtiment de 8 étages, 9, 10 étages, c'est toujours plus rentable que de chauffer des maisons de façon individuelle. Une autre façon, c'est le déplacement en ville. Si on peut bénéficier des transports en commun, ça sera toujours plus écologique et plus économique que d'être autonome. Donc, c'est super de vivre à la campagne. Moi, j'adore. Le truc, c'est que quelquefois, la ville peut apporter ses avantages. Maintenant, une deuxième chose que je voulais dire, c'était rebondir sur ce que disait Jean-Philippe. Est-ce qu'on va dans le bon sens dans notre laboratoire de physique? Moi, je pense qu'évidemment qu'on va dans le bon sens et il ne faut surtout pas s'arrêter. Par contre, on a peut-être mis à l'échelle mondiale la charrue avant les bœufs, à savoir qu'est-ce qui est prioritaire est-ce qu'il faut savoir voilà, qu'est-ce qui est prioritaire? Faut-il dépasser les besoins pour aller dans la technologie? Et dépasser les besoins, ça veut dire aller chercher l'envie. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Dans la recherche médicale, j'écoutais la semaine dernière, on a fait encore une prouesse à Rennes ou à Caen, je ne sais plus. On a réussi à grâce à un robot, à changer une veine, un principe essentiel du corps humain, sans ouvrir une veine qui se trouve sous le thorax, sans même ouvrir le thorax. Donc c'est quand même évidemment super. Et c'est bien pour ça qu'on va dans le bon sens, parce que justement, la recherche sur laquelle on travaille tous les jours, alors on n'est pas dans le médical, mais en physique, donc la robotique, entre autres, évidemment, cette recherche, elle est essentielle. Par contre, ce qu'on a oublié, c'est de se dire à quoi on va l'utiliser, cette recherche. Donc il y a tout un aspect, tu parlais de philosophie et d'anthropologie, mais c'est exactement ça, mettre la charrue avant les bœufs. C'est, on s'est dit, on va développer de la mécanique, de la physique, du médical à outrance. On va le développer, mais surtout, on va essayer aussi d'en tirer profit au maximum. Alors, un profit d'argent, un profit pas rentabilité. Je cherche le côté on dépasse le besoin, on va à l'envie. Donc c'est un côté abusif de tout ça. C'est ce qu'on appelle le progrès aujourd'hui. C'est le fait de pouvoir allumer la lumière et puis d'avoir de la lumière sans se poser de questions. C'est super. Donc je crois qu'il faut absolument. Enfin, je crois que l'une des choses importantes à faire, c'est remettre peut-être l'essentiel, à savoir pourquoi on fait cette recherche, dans quel but.
Oui, je pense qu'effectivement, alors juste pour revenir quand même à ce que tu disais avant, mon propos n'est pas du tout de dire tous à la campagne et tous, surtout pas tous avec un modèle de maison individuelle, avec jardin, etc. On sait très bien que ce modèle-là, il n'est pas soutenable. Et par ailleurs, il y a plein de gens qui n'ont aucune envie d'aller vivre à la campagne, et ça a été mon cas pendant très longtemps, donc j'ai aucun souci avec ça, et je pense qu'il y a plein de choses qui sont déjà en train de s'inventer aussi en ville, justement en matière de ville plus écolo, plus solidaire, etc. Donc voilà, juste par rapport à ça. Ensuite, sur la question des usages, je pense que c'est vraiment le maître mot, cette question, effectivement, des usages. Et pour déterminer les usages, si on ne veut pas à nouveau mettre la charrue avant les bœufs, il faut d'abord se poser la question des besoins. pour qui c'est les besoins qui vont déterminer les usages et non pas l'offre. Enfin, on revient à ces histoires vieilles comme le monde d'offres et de demandes. Mais par contre, là où j'insiste, moi, dans mon livre et dans mes interventions, c'est qu'il faut quand même garder cette notion d'envie. Parce que le projet, en tout cas un projet politique qui donne de l'élan, ne peut pas être un projet politique basé uniquement sur la satisfaction des besoins de base nécessaires à la survie, quoi. Donc moi, je pense qu'il faut garder cette notion d'envie, mais la redéfinir elle aussi, tout comme on redéfinit les besoins, comme on redéfinit les usages, et de revenir questionner quelles sont nos envies singulières, c'est-à-dire des envies qui ne sont pas influencées par les effets de mode, par la publicité, par le modèle de vie des ultra-riches. Voilà, de se poser la question de savoir si, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une Rolex ou un yacht à Antibes ? Non. Mais par contre, il y a d'autres trucs qui me font vraiment envie et qui sont superflus, futiles. Mais ces choses-là, je vais y tenir suffisamment pour me dire qu'il y a d'autres choses qui me font moins envie et dont j'ai pas besoin, auxquelles je suis prête à renoncer pour que les besoins et les envies du plus grand nombre puissent être couverts, en fait. C'est vraiment une question d'équilibre, hein. On revient à des principes de base, même budgétaires, enfin, c'est la même chose, en fait. On est vraiment sur deux colonnes, quoi. Il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent, et il faut être à l'équilibre. Et donc, si on veut pouvoir garder certains usages, couvrir certains besoins, pouvoir continuer à assouvir certaines envies, eh ben, il y a d'autres choses dont il va falloir apprendre à se passer.
L'heure tourne, on prend encore deux ou trois interventions, et puis on va arrêter, si ça vous va.
Moi, je vais faire court. Donc, juste par rapport à ce que tu disais, moi, je ne suis pas sur la même ligne que toi, mais c'est comme ça. Je ne suis pas sûre qu'il faille définir un usage pour faire de la recherche fondamentale. Voilà. La question de la recherche fondamentale n'est pas une question d'usage, c'est une question de curiosité, d'aller questionner ce qui nous entoure, d'essayer de comprendre le monde qui est autour de nous. Par contre, là où on a dérivé, c'est que maintenant, avec les appels à projets, avec la manière dont on finance la recherche en France aujourd'hui, on nous oblige à donner une vision d'usage qui soit à la mode. Et les modes ne sont pas définies par un collectif. Donc c'est là où est la difficulté. Pareil, je pense, et ça je suis intimement persuadée, que le fait est qu'on soit de plus en plus spécialisé, le fait est que dans nos formations, moi je me rappelle quand j'ai été dans ma formation à Lyon, on a dû se battre en tant que scientifique pour instaurer des séminaires de philosophie et d'épistémologie. Et en fait, parce que les gens se disaient « mais ça sert à rien ». Sauf que si on réfléchit pas sur ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut se dire « il faut pas faire ça ». Voilà, c'est toute la difficulté. De la même manière, j'ai des exemples en tête ici à Néel, où les gens continuaient à faire des choses parce qu'ils étaient financés, par exemple, il y a des mutuelles, des assureurs qui venaient voir, ils disent « pourquoi ?» Ben non, moi je vais pas financer, je veux pas être financé par des mutuelles qui après vont utiliser le device que je vais faire pour détecter si le vieux de l'EHPAD, il a pris ou pas sa pilule, et après dire « ah ben non, on peut pas l'assurer, il a pas pris sa pilule ». Non. Voilà. Donc, et je me suis rendu compte à cette occasion-là, par exemple, qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte, en fait, qui réfléchissent pas au-delà de cette curiosité, de cette envie de faire le truc qui va bien, super, ça va nous éclater et tout. Bon. Éclater, c'est bien. Réfléchir, c'est bien aussi. Enfin, il faut les deux, quoi. Voilà. Donc, donc j'ai un peu cette difficulté, j'ai un peu l'impression, mais j'ai eu cette impression dès que je suis arrivée ici, de l'absence de réflexion, politique sur nos métiers. Et j'emploie le mot politique, pas le mot politique gouvernemental, le mot politique, c'est-à-dire de ce qu'on va vraiment décider de faire ou pas, de s'abstenir de faire. Éthique, voilà, merci. Et du coup, la question de l'éthique se pose de manière très très forte, je trouve, et je trouve que nous, scientifiques, sciences et techniques, on ne se la pose pas assez. Et à la différence de certains collègues italiens qui ont une formation sciences humaines d'abord, avant d'avoir une formation de sciences et techniques. Et je pense qu'on a perdu cet équilibre qui amène la réflexion. Voilà. Merci.
Je n'ai rien à ajouter.
faire encore plus court que neige. Est-ce que vous ne pensez pas que le mot autonomie est dangereux parce que c'est l'objectif d'être autonome, pourquoi ? Je veux dire, on pourrait très bien être autonome en allant ici faire pousser à Grenoble des citrons, par exemple, mais ce n'est pas raisonnable en termes d'usage des ressources, économiquement certainement, mais aussi en termes d'usage des ressources naturelles. Enfin. Donc, est-ce que ce n'est pas un mot un peu dangereux qui peut être contradictoire avec l'idée de sobriété ? Je vais me cacher du haut-parleur.
Bon, ça, là aussi, ça mériterait un développement plus long. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à lire un bouquin qui est sorti récemment qui s'appelle « Terre et liberté » d'Aurélien Berland, qui, pour moi, est un des meilleurs ouvrages sur cette question de l'autonomie politique et matérielle en lien avec ces questions politique au sens large du terme. Mais pour moi, cette question d'autonomie, elle est fondamentale. Encore faudrait-il bien la définir, mais il ne s'agit pas d'autonomie au sens de l'autarcie. C'est pour ça que j'essaye de bien toujours parler d'autonomie collective. Il s'agit plutôt d'autonomie en opposition à une forme d'hétéronomie. C'est-à-dire, pour moi, l'autonomie, c'est comprendre comment fonctionnent les choses dont je me sers, être en capacité, le cas échéant, de les réparer, de les construire ou de m'en passer. C'est comprendre le monde qui nous entoure et c'est, comme je le disais tout à l'heure, choisir ses propres dépendances. Et ça consiste aussi, et c'est ce que développe Aurélien Berland, à ne pas se décharger sur d'autres de ce qu'on peut faire soi-même. On est dans une société où on a beaucoup trop confondu la liberté avec le fait de faire à d'autres ce qu'on n'a pas envie de faire soi-même, et notamment de se décharger des nécessités du quotidien, soit sur d'autres êtres humains, soit sur la technologie. Et je crois que reprendre en main toutes ces choses dont on s'est délesté sur d'autres, y compris les choses pas très agréables à faire, c'est pour moi vraiment ça la source à la fois de l'autonomie, mais aussi d'une forme de décence, en fait, dans beaucoup de domaines, et donc de dignité humaine. Et voilà la raison pour laquelle, en tout cas, en quelques mots, moi, je tiens à ce terme d'autonomie.
Dans la suite de ce que tu viens de dire, la question que je voulais te poser, c'était un petit peu sur les modes de gouvernance qui aujourd'hui, tu sais que tu as arrêté un peu la politique, ça, mais la question qu'on se pose tous en ce moment, c'est de se dire, écoutez, les modes de gouvernance actuels très pyramidaux sont aujourd'hui pas capables de répondre rapidement en fait aux questions systémiques sur lesquelles on est face. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres pistes est-ce que tu as réfléchi à d'autres pistes, comme Cyril Dion aujourd'hui ici, qui parlait justement des systèmes beaucoup plus horizontaux dans les grosses structures systémiques, mais aussi peut-être dans les plus petites, comme peuvent être les labos de recherche ou autres.
Il y a quand même beaucoup de choses, effectivement, qui s'expérimentent. Alors, dans des labos de recherche, je ne sais pas s'il y a des exemples de fonctionnement coopératif et autogestionnaire.
Sur des labos tout petits, ça existait à Paris. Moi, j'ai été embauchée dans un premier labo comme ça.
D'accord.
Avec une AG tous les lundis matin pour les décisions.
Donc, sur des, je dis pour les gens qui ne sont pas dans la salle, ça existe sur des petits labos à Paris. Avec,
ça a existé
avec des prises de décision en AG, etc. Mais en tout cas, oui, des expériences comme ça, il y en a à petite échelle. C'est des exemples de petits labos ou des exemples de fermes alternatives, d'habitats collectifs, c'est ce qui s'expérimente sur les ZAD, Et après, ça existe aussi à échelle plus institutionnelle, hein, c'est toutes les revendications sur le référendum d'initiative citoyenne, c'est des choses qu'on a pu voir en prémisse dans la Convention citoyenne pour le climat, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis après, il y a aussi des exemples ailleurs. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Syrie du Nord-Est, sur un territoire qui s'appelait le Rojava, qui s'est considérablement étendue et qui fonctionne selon justement des principes d'auto-administration, c'est-à-dire que c'est un territoire qui regroupe à peu près 5 millions de personnes aujourd'hui, donc on parle d'une expérience à grande échelle, qui s'est déclarée de facto autonome au début de la révolution en Syrie, et qui aujourd'hui fonctionne avec une auto-administration, donc sans État, et selon les principes d'un système politique qui s'appelle le confédéralisme démocratique, qui s'inspire beaucoup du municipalisme libertaire, avec des cellules de démocratie de base à l'échelle d'une centaine de foyers, qui s'appelle la commune, voilà tout un... Donc des dispositifs comme ça, il en a existé, il y a eu plein de systèmes différents, du kibboutz à des communautés alternatives à travers les âges, dont on peut aujourd'hui s'inspirer. En réalité, on a l'impression d'être dans un horizon indépassable, mais le système selon lequel on fonctionne aujourd'hui est loin d'avoir été le seul à avoir été expérimenté, quoi. Donc il y a aussi voilà, cette espèce de bordure d'horizon, là, de clôture qui nous a été mise, notamment avec toute cette époque de Thatcher, de Reagan et du TINA, là, le « there is no alternative ». Ça, c'est vraiment une des clôtures prioritaires à démonter pour se réouvrir le regard sur d'autres horizons possibles, quoi. Et merci à vous.
Merci.